s'habiller ensemble et ça marche toujours. Voilà, vous voyez, ça marche toujours. C'est toujours comme ça. C'était comme ça quand je les ai à Paris, à New York, à Buenos Aires, à Tel Aviv, à Brétigny-sur-Orge. Et donc aussi, cet après-midi, vous allez voir, à Arles, on pourrait quelque part avoir pour sous-titre « A-t-on le choix de rire ?» Une sorte de mode d'emploi, si vous voulez, avec des exercices et des conseils pour ceux ou celles qui aimeraient faire rire, qui ont déjà essayé sans grand succès, et qui aimeraient améliorer leur technique. En ce qui concerne le côté, comme déjà mentionné, multilingue, l'histoire linguistique de ce spectacle, en fait, il ne s'agit pas d'un spectacle qui avait vocation d'en être un, d'en devenir un. Ce n'est pas un spectacle que j'ai écrit et puis que j'ai cherché à traduire pour le jouer ailleurs. Non, c'est l'inverse. C'est parce que je me présentais dans différents pays et dans différents lieux et cultures avec le thème de l'humour et de la comédie que j'ai été obligé de trouver des connexions, des permanences. Et je suis arrivé à parler tout d'abord du corps et son comportement. Et voilà, on part de là, à la base. On va partir du corps. Ensuite, vous allez grimper dans les hauteurs, les nuances, les subtilités de la linguistique. Alors, qui dit rire, dit rire. A-t-on le choix de rire? Monsieur, riez. Et c'est la madame qui rit, vous voyez. Et puis les autres. Qui dit rire, dit rieur, rieuse. Le rire est une réaction. Une personne, par exemple, qui se balade tout seul dans une forêt, qui, momentanément, distrait par un champignon, se cogne contre un arbre, ne fera rire personne. Surtout pas elle-même. Ni le champignon. Mais il va falloir rentrer, voir la famille, les copains, l'anecdote, puis l'arbre, le champignon, pour que eux, ils réagissent. En produisant un comportement corporel, vocal et respiratoire, nous appelons le rire. Les rieurs, donc cet après-midi, c'est vous, le public. Premier conseil, si vous voulez faire un public, trouvez un public. Vous riez, mais ce n'est pas si facile que ça. Cet après-midi, c'est tout de suite gagné. Alors, tout de suite, deuxième conseil, une fois que vous l'avez trouvé, votre public, il faut le connaître. Qu'est-ce qu'un public? Qui êtes-vous? C'est quoi cette créature qui se cache dans l'obscurité en attendant d'être amusée d'ailleurs? Si vous n'avez jamais vu un public, venez ici. Il y en a juste là. Et vous restez à votre place, vous avez raison. Le public connaît sa place. Sachez que j'ai un avantage sur vous. Moi, je suis à l'aise ici et là. Vous n'êtes à l'aise que là. Néanmoins, pour des raisons purement pédagogiques, évidemment, il va falloir inviter une ou deux personnes ici sur le plateau pour m'assister avec des exercices. Et là, vous ne riez plus. Et là, vous riez tous ensemble pour la première fois. Un peu trop fort, je vous venais craindre. J'ai enlevé ces deux séquences pour cet après-midi. Hein, ouf. Et d'ailleurs, quand je le fais dans les théâtres, j'ai déjà préparé une personne et je l'avoue au public pour vous montrer que. Si votre but est de faire rire les gens, de faire rire le public, ne commencez surtout pas par les stresser, par les inquiéter. Puis, au départ, il a besoin d'un temps. Il faut le rassurer. Une fois le public bien à l'aise, vous voulez un peu plus. Maintenant, le vrai travail du comique peut commencer. Il y a deux choses. Il y a un public et le public. Vous êtes les deux, mais il y a une différence. Un public n'est là qu'une fois. Et cet après-midi, c'est vous. Et la semaine prochaine, je crois, à Jean, ça sera notre public. Mais le public est toujours là. Si le public n'est pas là, je rentre chez moi. Comment peut-on être sûr que nous serons un public, un soir, un jour, mais le public va se mettre à rire exactement comme vous le voulez? Il faut être sûr, au départ, de partager quelque chose avec ces gens. De se connecter avec quelque chose. Et là, ça commence. Le point peut être sûr qu'on partage toujours avec n'importe quel public, n'importe où dans le monde d'ailleurs. Le corps est toujours là et chacun a un corps. On me dit souvent, vous faites du théâtre corporel, monsieur. Je jamais vu un comédien entrer sur scène sans son corps. Alors, prenons d'abord ce corps. J'en ai amené pour vous ce soir. Voilà. Un spécimen masculin. 1m87, belge. Et ce qui est curieux avec ce corps qu'on a complètement même avec les Belges, c'est qu'il est vertical. Peu de choses dans la nature sont verticales. L'arbre est vertical, mais l'arbre a des racines. À la girafe, vous dites pas, la girafe n'a large bas. Nous n'avons pas de racines et la base est plus étroite que le haut. Nous voilà un homo erectus. Sa verticalité dont il est si fier. Le résultat de millions d'années d'évolution, c'est important pour nous, cette verticalité. C'est dans nos os l'histoire de notre verticalité. Au fait, nous sommes obsédés quelque part par la verticalité. Nous hissons des drapeaux, nous élevons les élèves, nous construisons des hautes tours, certains entièrement inutiles, il y en a une à Paris. Les gens viennent de partout dans le monde et forment des longues tours, attendant de pouvoir monter cette tour et qu'ils prennent des photos. Une fois qu'ils ont finalement monté cette épreuve, d'autres retours au bas comme ça. Je se déplace vers une autre ville, cette fois-ci en Italie, où maintenant ils sont fascinés par un autre tour, parce que celle-ci est un tout petit peu pas verticale. Et vous dire, vous voyez, avec les photos des copains que vous prenez dans cette ville, je l'ai fait. L'orgueilleuse tour Eiffel, elle suscite notre admiration, tandis que la tour de Pise, elle suscite notre affection, elle fait sourire. Rien que parce qu'elle est un tout petit peu pas verticale. Notre sens des valeurs est sur une échelle verticale. Nous parlons d'être au-dessus de tout. Alles übersteigen, being above it all, grimper l'échelle sociale, climbing the social ladder, feeling low, donner un coup bas, la chute de l'empire, le paradis est dans le ciel, l'enfer est dans la terre. Et ces valeurs viennent de et sont inscrits dans ce corps. Et sa verticalité, comme on peut constater par exemple avec le placement de nos mains sur notre corps. Regardez, au plus bas, il ne se passe pas grand-chose. Je me repose, j'attends, vous attendez. Ça commence ici, au niveau du bassin, à le centre de l'action. Là, je suis prêt à agir. Là, je suis prêt à faire quelque chose. On observe d'ailleurs souvent des groupes d'hommes devant un chantier comme ça. S'ils sont prêts à participer. C'est plutôt rare de voir un groupe de dames devant un chantier comme ça. C'est curieux, les dames ont plutôt tendance à mettre les mains comme ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles ont déjà travaillé. Si on monte un peu, on arrive au milieu, vous voyez, là ça change complètement, ça devient dramatique. L'inquiétude, on se tient. Peut-être il y a parmi vous encore des gens qui se rappellent ces vieux films en noir et blanc, mélodramatiques, avec ce genre de pose. Il s'agit de votre fils, madame. Mon fils, encore plus lourd, ça devient personnel, ça me concerne. Indicible, impensable, horreur. Vous voyez, plus haut les mains, plus haut le drame. C'est vrai que, par exemple, quand on voit le facteur arriver sur toi, le matin, nous ne faisons pas le facteur. Vous voyez, avec quelle facilité on obtient un rire, avec cette simple inversion des valeurs, sous l'échelle verticale. Alors, pour faire rire avec ce corps, donc, observons-le de plus près. Pourquoi nous ne tombons pas? Parce que nous avons, dans notre squelette, des points d'articulation qui nous permettent de compenser. Vous voyez, quand nous sommes en avant, l'autre en arrière, ainsi de suite. On le maîtrise à un point de l'inconscient. J'exagère bien évidemment, mais pour se déplacer, l'être humain se sert d'un mouvement ondulatoire. Toujours, 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 Ces fascistes facilement deux monsieur en Italie qui se croisent et qui se reconnaissent du loin. C'est très curieux. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, c'est plutôt l'inverse. How you do? Ça n'existe pas. On y revient. Deux héritages, la patrie et la sascopique. Parce que justement, ici réside notre identité. C'est la place du moi. On dit moi. Pas moi, ni moi. Pas facile. Hein. Même si dans certaines cultures on dit moi ou moi, on ne va jamais là. Moi. Le moi, chez les orgueilleux, s'impose, il pousse. Me voilà. Il est timide de dire en arrière, il faut le cacher. Observez d'ailleurs les gens quand ils sont présents à toutes sortes d'occasions très formelles, où ils se sentent mal à l'aise. Ils sont bien habillés, ils sont chez le coiffeur. Ils se servent d'un verre, par exemple, pour essayer de se situer, pour être quelque part, pour dire me voilà. Je suis là aussi, au contraire, pour se cacher derrière le verre, pour dire je ne suis pas là. Regardez le verre, ne le regardez pas. Évidemment. Après quelques verres, la main a tendance à descendre au niveau du bassin. Et pour ceux qui le portent là, ils n'ont rien compris. Ce qui nous amène à la tête. La tête mine d'or. Pour le communiquer, la tête est très mobile. Parce qu'ici, dans notre crâne, évidemment, nous avons nos télérécepteurs qui nous permettent de voir, d'entendre, respirer, etc. Mais sûr. Ici réside l'organe principal de notre espèce Homo sapiens, le cerveau. Observez, si vous voulez, le mouvement de la personne qui essaie de se servir de son cerveau. La tête se coupe du reste du corps. On cherche à comprendre quelque chose, on va le chercher avec la tête. Comment on va? Au contraire, la chose rentre dans la tête, on recule de cette idée si on ne veut pas la croire. Non. Dans la tête, on essaie de s'en débarrasser. Aussi, c'est curieux, une personne est confrontée avec quelque chose qu'elle, lui, ne comprend pas. Ils ont tendance à bouger la tête dans des angles diagonales, comme ça. Un chien cherche l'angle juste d'ailleurs. Même un chien. Voilà. Un chien qui est un animal intelligent, quand on lui dit quelque chose qu'il ne comprend pas, en fait. La tête vers le sol, quand on essaie de se souvenir, mais c'était où, mais c'était quand, et quand on se souvient, la tête va chercher le ciel. Si nous pouvons, rien qu'en jouant avec les différentes attitudes de la tête, jouer une petite vignette comique, silencieuse, comique d'observation, d'une personne qui est confrontée avec quelque chose qu'elle ne comprend pas. Prenons par exemple un visiteur dans une galerie d'art moderne. Tenter, vous l'avez vu? Petite parenthèse, je ne trouve pas une traduction satisfaisante. À vous après. Moi j'ai dit tenter, voilà. Il n'est pas passé la journée, je le refais. Observez bien ce phénomène, tenter. Qu'est-ce qui se passe? Analyse! C'est au niveau de l'intelligence. On voit quelque chose, et ce n'est que sur le retour qu'on se rend compte que cette chose a une importance. Nous sommes tous accélérés sur le contre-temps. Vous pouvez même ajouter un troisième coup, c'est un peu plus le phénomène. Il faut faire toute une série. certain moment, assez soudainement d'ailleurs, il se produit un énorme changement à ce niveau-là. Et chez les filles ici aussi. Et les jeunes adolescents ne savent pas tout de suite comment s'enseigner, comment que faire avec ces nouvelles données. Encore, donc ils ne savent pas comment regarder les autres. Ça ne plus, c'est quoi, catastrophe de l'adolescence. Rien est dans l'axe. Tout le refus. Au fond, inépuisable, l'adolescence toujours épuisée. Quand l'enfant tourne, on court à son secours. Quand l'adolescence est riche, on dit voilà ce qui se passe quand on fait les malins. Nous traversons tous, heureusement, sans trop de dégâts. Et dans toutes les cultures, et dans toutes les langues, cette zone de turbulence pour arriver de l'autre côté, chacun d'entre nous, avec son modèle final, avec son corps à lui, à elle, avec sa posture, sa forme unique, avec sa façon de marcher, singulière, unique, c'est très singulier. Il n'y a pas de personne ici qui a la même posture, qui marche de la même façon. Chacun a sa danse. On reconnaît d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît très bien, de loin, rien qu'à sa façon de marcher. Mais il y a quand même là-dedans aussi certaines permanences dynamiques. Par exemple, il y a des gens, regardez autour de toi, il y a des gens qui, quand ils marchent, ils poussent, et ils attaquent la ville comme ça. Ils s'attendent à la résistance. On va au théâtre ce soir. On a l'air d'être poussé. Déstabilisé, sera corps s'engage dans une activité qui nécessite évidemment une certaine tension musculaire. Hein? Qui nécessite un effort. Voilà. Et il y a plus de types d'efforts. Ou bien on doit pousser quelque chose, ou on doit tirer quelque chose. On pousse quelque chose, on tire quelque chose. L'agent de police, il pousse. Le mendiant, il tire. Hein? Tirer, pousser. Il y a des choses qu'on ne peut que tirer et non pousser. Comme les cordes, les ficelles, on ne peut que s'en servir en étant sous tension. Hein, je vis à Paris à côté d'un parc et des fois je vois la pidane avec le chien. Hein, quand ils tardent à suivre, elles sont obligées de le tirer parce qu'elles ne peuvent pas le pousser. Une porte, je pousse pour l'ouvrir, je tire pour la fermer. Il y a des grands efforts de tir poussés dans le monde du sport qui résultent dans des attitudes monumentales, héroïques, hein, le javelin, le poignet de terre par exemple. On s'impose en tirant et en poussant ensuite, tout cela est très impressionnant, merci beaucoup, mais cela ne fait pas rire. Et le comique va arriver quand on entre en situation. C'est le conflit qui fait rire. Ce n'est pas la dame qui tire le chien, mais c'est le chien qui tire la dame. La porte semble être coincée. Par son équilibre, sa dignité, se mettre en toutes sortes de tensions, quand on s'en tension toute la journée. Nous avons besoin régulièrement de repos, de regarder pour de voir. Hein? Parce que tout le monde, même vous sans chaise, vous vous êtes assis. Personne n'a choisi, a décidé de suivre cette performance comme ça. Pour les gens, nous avons besoin de repos. Et le repos, ça veut dire on cherche zéro gravité, on cherche un appui. Hein? Et pour cela, nous avons inventé des objets ingénieux d'ailleurs, hein, qui nous permettent de enlever le poids des jambes sans pour autant perdre notre dignité. Mais par manque de chaises et de bancs, dans des lieux publics, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui cherchent désespérément un point d'appui quelque part pour aller au port et se mettre sur leur valise. Sur les plans d'un copain, dans le bar, sur une bicyclette, dans la rue, à la maison, et on risque évidemment l'accident parce qu'on se sert de points d'appui pas très sécurisés. Hein, regardez, ouvrons maintenant, en tout petit moment, ce grand chapitre des accidents et le rapport au commun. Pourquoi pas avec ce petit exemple? Qu'est-ce qui se passe? Je mets ma main, je fais quelque chose, je soulage, je me repose et ma main glisse. Et regardez, qu'est-ce qui se trouve dans la trajectoire de ma tête? Vous aimeriez évidemment maintenant que je me fasse mal. Attention, je ne vais pas vraiment me faire mal, je vais simuler de me faire mal. C'est très impressionnant, ça semble facile, ce ne l'est pas. Il faut quand même une certaine pratique, une certaine technique, ne rentrez pas chez vous après et dire ah, je vais te faire rire, regarde. Vous risquez de vraiment vous faire mal, et rire quand même. Donc, je triche, non? Ça produit cet effet-là. Trois réactions sont possibles. C'est curieux comment cette violence provoque le rire. Hein. La première réaction, donc, n'est pas avisée si vous voulez faire rire. Hein, c'est celle-là. Ah. C'est génial. Il y a toujours, pendant les 20 ans que je joue avec quelqu'un, il y a eu des sadiques qui rient. Et là, il n'y avait personne. C'est impossible, les traducteurs ne seront donc pas sadiques. Je ne peux pas me servir de cela pour en rire. Donc, évidemment, on a des sadiques pour vous rassurer les gens que je joue, ce n'est pas un accident. Donc, deuxième réaction, beaucoup plus avisée, à la double fonction. La première, comme on l'a dit, de tout de suite rassurer. De signaler, c'est pour faire rire. Deuxièmement, de profiter de cet accident, de ce petit coup sur la tête par exemple, on a une excuse, un alibi. On n'a pas besoin de dignité pour un moment. Et on en profite pour produisant un comportement loufoque qui est aléatoire, qui n'a conduit que de faire rire, le temps que ça dure. On va tenter l'expérience. Ah. Oui, oui, oh. il n'y a rien de plus à Londres. Je n'ai qu'à mettre cet objet dans son trajectoire. Le fameux on s'assoit, croisement de jambes, de micro, le public ne suspecte rien. Grande distance entre moi, ma dignité. Si ça arrive tout seul chez moi, peu importe, je remets ma godasse. Bien plus grave, si cela arrive dans une situation publique, le regard des autres, et là, on va avoir contendance de réagir avec une certaine urgence. Effectivement, cette urgence fait que le corps se charge de trop de tension. Les actions deviennent imprécises et on risque de se compenser. Hein, ça fait ça. Thank you. indépendance. On veut avec vous, la patronne. On veut que ça dure. Vous savez ça? On veut rester là. On me dit toujours, ah, monsieur, encore un fromage. Et ce rire, il donne un corps. C'est pas le corps du rire. Ah, mais justement, c'est un corps qui quitte sa construction verticale. C'est un corps en collapse. En riant, nous, on a l'envers le sol. Non. C'est pas beau à voir, avec des gestes typiques de négation, de refus. On s'éloigne de l'objet du rire. Pour finir, donc maintenant, la montée du rire dans le corps humain, à partir du niveau zéro jusqu'au maximum, à la saturation totale. Alors, tout d'abord, le nœud, le corps vertical, cette tour magnifique qui est le corps humain. Le regard bien posé sur l'horizon. Et ça commence, première étape, tout petit, à l'intérieur de la personne, comme une toute petite complaisance qu'on n'a qu'avec soi-même, et qui se traduit dans les yeux, dans le regard. On dit on frise, il y a une petite lumière qui s'allume dans le regard. Qui est suivi par le sourire. Le sourire n'attend pas encore le rire, on dit sourire. Le sourire est signe de satisfaction, de bien-être. Le sourire dit oui au monde. Le petit nourrisson, oui, dans les bras de sa maman. Déjà, après avoir mangé, sourire à sa maman. Elle n'a pas rire avec sa maman. Le sourire qui s'ouvre. La première, c'est place à la respiration, la naissance propre du rire. Chacun a une autre musique, chacun joue l'autre instrument. Là-dedans, il y a aussi certaines permanences, si vous voulez. C'est typique, il y a des gens, par exemple, qui rient en descendant, en cascade. Il y a des rires mitraillettes. Il y a des rires silencieux, comme de l'eau qui boule. Je connais même quelqu'un qui rit en aspirant. Permettre de traduire, de transformer Je jouais ce spectacle au théâtre des Bourguignons à Paris. Et, par erreur, j'ai inversé ces deux notions. Je disais d'abord rire, puis orgasme. Donc je laissais ce public dans un silence absolu. J'avais connecté avec la mauvaise recette. Et pendant tout le spectacle, il y avait un petit garçon devant moi, assis par terre sur des coussins avec d'autres, avec des lunettes, je ne sais pas, 6-7 ans, et avec une voix cristalline dans ce silence total, dans une salle qui résonne très bien. Et il disait, c'est quoi? Et à ce moment, le public explose comme moi, comme acteur comique ne peut jamais espérer. C'est la vie qui me l'a offert, la chance qui me l'a offert, le meilleur rire que j'ai jamais entendu, les grands applaudissements, avec ce petit qui me regardait autour de lui. La meilleure réponse que j'ai eue, c'était de l'enfant. Je travaillais en Angleterre, je produisais, co-produisais des séries comiques burlesques pour enfants. Et on faisait des tests des fois. On amenait des petits, on avait filmé des bouts, on amenait dans des écoles différentes, dans différentes classes. Et on leur montrait une classe, il y avait une fille, 6 ans, elle riait énormément. Et je fonce vers elle, je dis, dis-moi, pourquoi tu ça te fait rire, pourquoi tu fais comme ça? Elle s'arrête de rire. Et c'est vrai, elle s'arrête de rire, elle regarde d'un regard étonné, elle dit, mais parce que c'est drôle. Pour bien finir toujours, saupoudrer avec un peu de sentiment. Le public va partir, elle peut faire autre chose, pour ne jamais plus revenir. Cet après-midi, j'étais vous. Et un autre public sera devant moi la prochaine fois. Il se comportera comme vous, en résistance au début, avec des grands moments dynamiques en soi. Il sera attentif et silencieux, comme vous l'êtes maintenant, même enrichi, hein, avec toutes ces expériences. Je vous laisse avec ça, maintenant c'est à vous d'agir. Le grand clown Charles Rivet disait, et soyons honnêtes, ça j'ai lu dans une Inside magazine de l'autre. C'est un allemand, mais je le traduis pour vous parce que sinon ça ne marche pas, je vous explique à quelle fois. Charles Rivet disait, une des dernières choses qui nous reste, qui est encore vraiment faite à la main, est l'applaudissement. Merci beaucoup. Dans le festival de Hong Kong. Et on faisait le général après-midi. Il y avait un groupe de Hong Kong,
traduit par un grand monsieur littéraire chinois, un professeur de littérature et de poésie. On a dit, même en bas, on dit, mais ça ne marche pas. Ils ont invité ce monsieur à venir, il a pris le train, une heure de là, et il est très gentil. On a dit, on lui a posé la question, pourquoi vous écrivez ces choses? Parce que c'était vraiment très bizarre, très poétique. Il disait, parce que je vois le texte très ennuyeux. Thank you.